parce que je voulais quand même pas qu'on se quitte sans parler de l'Arcom.
C'est news.
Puisque nous avons une représentante de l'Arcom ici, en l'occurrence, Laetitia Allemand, qui fait partie de l'Arcom.
Alors moi, je te rappelle que j'ai un devoir de réserve quand même. Hein. Je te rappelle que je suis nommée par le président de l'Arcom, par décret, sur proposition du président de l'Arcom, avec un devoir de réserve très strict.
Et ça paye bien.
Donc je ne.
De suite.
T'as vu comment il est ? Non, mais
au niveau régional, ce qui remet les choses à leur place.
Oui.
Mais voilà, du coup, moi, je ne peux pas me prononcer, dire. Tu vois, je ne peux pas prendre position sur le fond.
C'est ce que je t'avais dit. Je comprends tout à fait ta position. Je dis seulement la petite chose, tu vas nous expliquer. Hein. Donc, c'est l'ONG Reporters sans frontières qui a saisi le Conseil d'État ce Conseil d'État a donné 6 mois à l'Arcom pour renforcer son contrôle en matière de respect du, ouvrez les guillemets, pluralisme et indépendance de l'information pour notamment la chaîne CNews. Jusqu'ici, en fait, l'Arcom limitait son contrôle uniquement au temps de parole des invités, des personnalités qui venaient, donc politiques essentiellement. Alors, il devra désormais tenir compte des interventions de l'ensemble des participants des chaînes de la TNT. Ça me paraît quand même assez compliqué, quoi. On en parlait un petit peu avant l'émission. Explique-nous un petit peu.
C'est vrai, là, je parle pas en tant qu'Arcom, mais en tant qu'ancienne journaliste, pour avoir été, en tant que rédactrice en chef adjointe, chargée de faire respecter les temps de parole
au moment des élections
présidentielles. Déjà, sur une émission, c'est extrêmement compliqué. Comme j'étais particulièrement bonne élève, les autres émissions de la chaîne m'appelaient en disant « Tu veux pas recevoir un tel ou un tel ?» Parce que nous, on est tellement déséquilibrés que je me retrouvais à rattraper les déséquilibres des autres et c'était déjà très compliqué à gérer. Là, je ne vois pas comment on va pouvoir équilibrer émission par émission au sein d'une même chaîne, etc. Mais au-delà de ça, ça pose des vraies questions. Là, il y a un changement par rapport à l'esprit de la loi de 86 et par rapport à ce qu'on nous demande, nous, autorité de régulation. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion en ce moment.
D'information et une chaîne, comme tu disais...
Jusque-là, on était plutôt garant de la liberté d'expression et du pluralisme, et notamment de l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs économiques, etc. Mais par contre, on n'intervenait pas dans ce qu'on peut appeler des médias d'opinion.
Mais il doit y avoir un cahier des charges.
Mais tout à fait. Comme pour les radios. On a...
Il y a une convention, en fait, si tu veux, les médias signent avec l'Arcom des conventions.
Les comptes que tu as à rendre, ce n'est pas à tes auditeurs. Hein. Les comptes que tu as à rendre, c'est à l'Arcom sur la pluralité.
Pour donner un exemple concret, pour se comprendre. Moi, je regarde CNews, je ne vous cache pas que ce n'est pas ma tasse de thé, mais j'écoute des fois Pascal Pro pour voir comment il s'y prend.
Pascal Pro, c'est un mauvais exemple.
C'est bien ça le problème. Bien les émissions qui sont animées par Pascal Pro.
Non, moi je suis pas d'accord. Non.
Ah bon ?
Pascal Pro ne manque.
Il a toujours pas dit ce qu'il voulait.
Les émissions de Pascal Pro ne manquent absolument de aucun pluralisme. Enfin moi personnellement je trouve que toutes les nuances de l'extrême droite sont vraiment très bien représentées.
Eh ben on est d'accord. mais dans les invités. Alors je sais pas s'il est encore communiste, hein, je vais pas le demander, mais il y a un mec, un gars qui est, comment tu les appelles des cocaliens, voilà, comme nous, qui est là toujours, je le vois,
les intervenants,
je le connais, parce que j'ai déjà rencontré, il est toujours là. Il y a même un socialiste. Qui a vachement grossi d'ailleurs, je ne le connaissais pas l'autre jour. Et donc,
Gilles William
Et donc c'est Pascal Pro tous les soirs qui anime ça, qui a d'ailleurs dépassé BFM Télé.
Ouais, ouais.
D'après ce que j'ai vu, en taux d'écoute, en nombre de personnes qui écoutent. Et donc, moi, de ce que je comprends, c'est que c'est pas effectivement le problème des invités. C'est le problème, c'est que Pascal Pro en tant qu'animateur, position.
C'est des chroniqueurs, etc. aussi.
Comme tu l'as fait tout à l'heure.
Ce qu'on nous demande d'ailleurs, le président de l'Arcom l'a dit. On nous demande désormais d'aller au-delà des simples prises en compte de temps de parole politique de gens encartés, mais d'aller sur le terrain de la société civile et de considérer aussi les activistes ou des gens tout simplement qui ont une opinion. Et là, ça devient très compliqué, tout simplement matériellement parlant. Quoi.
La différence entre Pascal Pro et moi, c'est que lui, il est pro. En fait, Pascal Pro n'a de pro.
Bénévole, toi.
Non, Pascal Pro n'a de pro que son nom. Voilà. Non, ce que je voulais dire. C'est que
non, mais après, on
la différence.
On parle côté droite, on parle de CNews, mais si tu écoutes certaines émissions
France Inter
ou certaines émissions de services publics, alors là, tu peux te poser la question sur le côté opposé du spectre.
Hein,
on va devoir
dire.
Surveiller des choses aussi parce que.
Ce que je voulais dire par rapport. Ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, mon coup de gueule au niveau de la SNCF, c'est que là, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de gueule d'usager. Voilà, je veux dire, moi, ça me
mais Pascal
saoule.
Pascal Pro, c'est comme ça qu'il intervient.
Ah ouais.
Il n'arrête pas de dire, ah mais moi, j'interviens comme ça en tant qu'usager.
Ouais,
mais,
ouais, usager de la peine de mort, usager Front National. Sérieux. Là, moi, je te parlais d'un problème spécifique en tant qu'usager. Mais après, je veux dire, on est là autour d'une table, on a des discussions.
Et pour te taquiner.
Non, mais c'est vrai que pour l'ARCOM, c'est un vrai changement de paradigme et de façon de voir ce qu'est cette autorité de régulation. Ça pose des vraies questions.
On a un vrai problème aujourd'hui, effectivement, qui est mis vraiment en exergue avec CNews. Mais tu as raison de citer France Inter, parce qu'on le cite, on le dit. Oui, c'est vrai que France Inter, c'est une chaîne à gauche. Quand même, voilà, qui est quand même bien à gauche.
En tout cas, c'est pas neutre. Quand tu tombes sur certaines émissions, ça ne peut que te...
Jean-Michel, ton avis.
Enfin, deux observations. Alors, la première, on parle d'une base législative qui date de 1986. C'est la préhistoire. Parce que on sortait quasiment de l'ORTF.
Mais tu sais que nous,
le numérique n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas,
TikTok et tout le bazar n'existait pas. Donc forcément, il y a un décalage entre ce texte de 86 qui offrait finalement la pluralité télévisuelle, avec derrière, je vous rappelle, quand même des chaînes qui ont disparu. Comment elle s'appelait là, avec Colaro et compagnie, la 5 ou non, c'était la 5.
Oui, la 5 de Berlusconi,
l'ancienne 5,
absolument.
Etc. Où on avait finalement le business qui arrivait. Et quand on regarde les groupes de médias aujourd'hui, ils sont présents sur le papier, de moins en moins.
Il y a Bolloré, quand même.
Ils sont présents sur les radios, ils sont présents sur les supports télévisuels, les supports numériques, et c'est cette transversalité qui fait un modèle économique. Et tout ça est adossé souvent, soit à des gros influenceurs idéologiques, faut dire les choses comme elles sont, soit à des gros business très, très juteux, et pour certains, d'influence idéologique aussi. Bolloré en est un, très clairement. Bolloré est dans une influence au long cours, etc. Donc je pense que l'année prochaine, si j'ai bonne mémoire, je pense sous le contrôle de Laetitia, la question de l'attribution des nouvelles autorisations de fréquences pour notamment CNews,
Canal,
etc. Vont être mis. Je pense qu'il faut toujours appréhender ces sujets de vives polémiques court-termistes. Je reviens sur mon fil directeur de ce soir. C'est en fait une façon d'infléchir une jurisprudence et de donner un signe dans les conditions dans lesquelles devront être renégociées les futures attributions. Pour recaler un peu le film, parce que ça déborde. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est la frontière, mais de plus en plus ténue, entre le citoyen et le vocifereur sur les réseaux sociaux. On le voit bien. Entre l'élève et le professeur, entre le chroniqueur et l'engagé politique. Quand Philippe de Villiers intervient comme chroniqueur régulier sur la chaîne en question, on peut m'expliquer qu'il fait pas de la politique et qu'il est donc catégorisé comme étant chroniqueur. Bon, je fais comme Peggy la cochonne dans le mauvais show. Avec le bracelet, non mais.
Sale
faut pas nous prendre pour des imbéciles. Voilà, donc je pense qu'il y a cette question de clarté. Après, moi je pense qu'il faut de la régulation, mais une régulation qui n'empêche pas de respirer. Et je préfère, au bout du compte, qu'on ait un Pascal Pro qui n'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas un problème. Ma situation personnelle, la manière dont j'appréhende les choses.
Tant qu'on n'a pas que ça, tu vois ce que je veux dire.
Tant qu'on n'a pas que ça, et tant qu'on peut continuer à avoir autre chose. Voilà, c'est surtout ça. Et surtout pas victimiser. Les personnes qui sont dans ce type de propos, mais les encadrer. Et je pense que l'une des façons, c'est effectivement recadrer par rapport au cahier des charges l'année prochaine, et puis jouer davantage sur les amendes. Je crois qu'Hanouna a un truc comme ça. Bon, c'est largement effacé par le niveau des publicités vendues à l'euro les 30 secondes, mais je pense que c'est aussi par le pognon qu'il faut effectivement réguler.
C'est symbolique, et puis ça marque les gens
voilà,
aussi.
Réguler les choses, et puis un travail pédagogique auprès des enfants et auprès de chacune et chacun d'entre nous, pour qu'on réapprenne aussi à hiérarchiser l'actualité, etc. Donc c'est aussi un travail d'éducation.
Ouais, d'éducation,
un travail de parents, éducation aux médias.
Ce que fait l'ARCOM aussi.
Ce que fait aussi l'ARCOM et sur lequel il faut qu'on travaille.
Entre les réseaux sociaux, entre les émissions de télé.
J'étais extrêmement choqué de voir certains bandeaux relayés par une personne avec peu de cheveux sur le crâne dont vous parliez tout à l'heure. Je suis CNews avec le bandeau de je suis Charlie.
Faut pas mélanger les...
Non, mais à un moment, moi je veux bien qu'on fasse des concepts, mais ne nous étonnons pas que bientôt, potentiellement, les avalanches nous tombent sur la tête. Hein, parce que quand tout est dans le tout et que plus rien ne signifie rien, ne nous étonnons pas après, en jouant les vierges effarouchées, que les jeunes comprennent plus rien, qu'il n'y a plus d'hiérarchisation de valeurs,
que les gens aient plus voté,
qu'on sait plus ce qui est accessoire d'essentiel, qu'on sait plus ce qui est vieux de jeune, qu'on sait plus ce qui est blanc de noir. Enfin, à un moment, faut remettre un peu de raison, un peu de complexité, de raison.
Là où Jean-Michel a raison et où il dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que moi, ce que je trouve dangereux, c'est qu'il y a une sorte de convergence entre des intérêts économiques, c'est-à-dire que ce qui marche bien, c'est ce qui est très politique et très outrancier. Mmh. Et ça converge avec, avec de l'idéologie, qui ne sont pas forcément liées, mais du coup, tout ça marche bien ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Et puis ça va plus loin, parce que ça s'appuie sur les pulsions humaines.
Oui, complètement.
Donc, même psychologiquement, on est plus attiré par quelque chose de... par une pulsion que par quelque chose de raisonnable. Et donc, ça alimente en plus en psyché individuelle et donc collectif, par effet de masse, sur la conscience collective. Et donc, c'est très clairement
et c'est une dérive qui n'est pas récente.
Une méthode politique qui s'amplifie et qui fait écho. Je ne joue pas mon complotiste contre les Chinois et les Russes, mais enfin, j'observe quand même beaucoup de choses et il m'arrive quand même d'entendre des choses au Parlement, dans des cercles un peu plus restreints, qui m'inquiètent sur ce qui est en train de se mettre en mouvement.
La question que vous vous posez, c'est est-ce que, aussi bien Pascal Praud que comment s'appelle-t-il déjà, celui de TPMP,
Hanouna,
est-ce qu'ils le font sciemment, c'est-à-dire
mais tu es encouragé
ou alors,
par ça, même
ou
par
alors
l'échelle.
Ils le font commercialement parlant.
C'est les deux. En fait, c'est les deux. C'est que l'un nourrit l'autre, en fait, et c'est ça qui est dangereux.
Plus
aussi.
Des dérivés gothiques, hein. Oui. Parce que quand on vous dit matin, midi et soir que vous êtes un leader d'opinion, que vous êtes la Taylor Swift du PAF français et que vous allez influencer la campagne présidentielle et que le président de la République se joue. Pensant que ça peut lui permettre de renouer le lien avec la jeunesse, en jouant finalement le feu follet de ce type de programme, là, on commence à être vraiment dans des zones de danger.
Voilà. Et régulièrement, tu fais le buzz et que le buzz entraîne une certaine aura qui te donne un certain prestige, qui te permet de faire du fric et tu es dans un cercle qui est infernal.
Et pour rebondir, y compris sur le service public, moi, il y a 10 ans sur France 5, on avait déjà ces dérives-là, où en conférence de rédaction, comme on est autour de la table, je proposais un invité et on me disait non, mais il est trop brillant, les gens vont rien comprendre, va nous chercher des gens beaucoup plus beaucoup plus extrême des deux côtés, ils vont se friter et on va faire le buzz.
Souviens-toi,
on parlait d'agriculture pour
boucler.
Souviens-toi
de Morandini, l'émission de Morandini, ne zappez pas sur TF1. C'était il y a quelques années.
Mais comme l'amour est
dans
le concept de M6.
Ouais.
Ben, franchement, nous qui connaissons les agriculteurs de France, et c'est pas les gens qu'on connaît.
C'est une caricature.
Non. Ah ben non.
C'est des gens qui existent parmi les gens qu'on connaît.
C'est un casting.
Mais c'est un casting parce que.
Oui,
ça
mais
joue
il paraît que ça fait plaisir aux agriculteurs.
Ah non. Alors,
ça se croit pas. Non.
Ah bah écoute, si.
Bah, pas tous quoi.
On relance le débat sur l'agriculture.
Non, je voulais terminer un peu là-dessus parce que
on s'y reconnaît pas forcément.
Et on s'y reconnaît pas forcément parce que c'est une caricature. Les agriculteurs ne sont pas ça. C'est des gens extrêmement. Puissants en termes de technicité.
Terre à terre.
Sont pour la plupart d'entre eux, non pas terre à terre, de grandes personnes qui sont capables de résilience parce qu'ils s'adaptent,
qui ont fait des études,
des métiers extrêmement compliqués, qui ont une vision économique du monde, qui ont une culture.
Bien sûr.
Incroyable, des territoires, valeurs, mais pas que.
Il faut arrêter de les présenter comme des bouseux.
Et il y en a marre de cette vision caricaturale. C'est pas la France qu'on connaît.
Mais c'est vrai que les médias,
ça fait du buzz et ça fait l'audience.
Attendez, calmez-vous, toi, tous en même temps, là. D'un seul coup, vous excitez, là.
J'ai même plus mon casque, du coup.
Mais si, tu es là.
Je grésille.
Ah, tu grésilles, excuse-moi.
Et du coup, oui, pour en revenir, on disait que c'est le consommateur qui fait aussi l'agriculture et l'alimentation. Et bien là, c'est pareil, c'est aussi le spectateur, parce que finalement, on flatte beaucoup ses pulsions sur le registre. registre de l'émotion. La direction de la chaîne te dira toujours, oui, mais là, on a fait beaucoup plus d'audience avec deux caricatures qu'avec ton mec intelligent.
Alors, exactement.
Moi, je veux quand même donner un volet positif. Tu vois, des fois, tu
comme quoi on est des blaireaux.
Je ne suis pas toujours positif. Ça va peut-être vous faire rire, mais bon, je m'en fous. Tous les soirs, je regarde une émission sur RMC qui s'appelle Quotidien, qui est animée par Barthès. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé.
Oui,
une équipe de jeunes.
Moi, je passe ma vie à zapper, si tu veux, pour voir un petit peu ce qui se fait.
Une équipe de jeunes, essentiellement des jeunes, qui font l'information. Moi, je vous invite à regarder. C'est rafraîchissant, quoi. Ça fait du bien, quoi. Parce que des fois, France 2 et même la 1, ils nous gonflent le soir. Hein, vous avez faux. Non, mais
on est dans l'info traditionnelle.
Ouais, c'est long.
C'est un peu la nostalgie de l'ORTF.
Ça dure 10 minutes sur le même sujet, on a envie.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Alors que là,
Léon Zitron, au micro.
Tu as une équipe de jeunes. Tu as un mec, là, je ne sais plus comment il s'appelle, en 5 minutes, 10 minutes, il donne les informations de la journée. C'est dynamique.
Mais tu as des trucs même sur les réseaux sociaux. Hugo décrypte des choses comme ça, qui sont des formats qui sont intelligents. Tu as de l'intelligence partout. Mais c'est vrai qu'il faut. Ça demande d'aller la chercher.
Enfin, il y a de l'intelligence partout, mais je dois dire que sur C8, il y a quand même du mal à la trouver.
Tu as Ségolène Royal qui intervient.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux, Ségo?
Je voudrais dire, moi, simplement, puisqu'on a quand même quelqu'un qui est chargé d'écrire ou d'entériner les lois à l'Assemblée, dans les assemblées, je crois que c'est un peu comme la loi d'orientation agricole de 1960, celle de 86 ou voilà. Quoi. On a besoin un peu de temps long, parce qu'il faut régulièrement revenir sur ces lois pour les encadrer et faire face à l'évolution du public.
Tu sais de quand date le code civil?
Ouais.
Non, mais
c'est évolué, moi c'est le code rural, tu vois, chez moi.
Les grands principes de la loi de 86, j'ai pris la peine de la relire avant de venir, en tout cas les articles qui nous concernaient, ça reste vrai. Enfin, je veux dire, ça reste quelque chose, un cadre très général.
Bien sûr.
C'est après dans l'application qu'on en a et dans
mais
la
mais tu sais que ce cadre, nous, on l'a pareil depuis 80, depuis que François Mitterrand a autorisé les radios libres. On est dans un cadre, on est géré effectivement comme les télés par l'ARCOM, dans d'autres conventions, mais on a une convention.
Vous n'êtes pas propriétaire de votre fréquence, vous occupez le domaine public.
Il faudrait que les gens le comprennent.
Si tu m'invites, c'est dans le cadre du pluralisme. Quoi.
Ah, tout à fait.
Je suis le représentant de la gauche.
Sinon, tu ne viendrais pas.
Non, parce que moi je dis, s'il n'y a pas Jean Codero, je ne viens pas.
Bon, on va terminer parce que sinon on va passer la nuit. Je voudrais terminer avec les JO. Alors, les JO de Paris. Les JO de Paris, je vous ai envoyé ce petit message en vous disant on a vraiment le sentiment que ça ferait plaisir à beaucoup, en tout cas à certains, que ça se passe mal. Et je trouve ça quand même dramatique, quoi, que ça va être quand même une image pour notre pays, pour Paris. Alors, même s'il y a des problèmes à Paris avec Hidalgo, est-ce que c'est la peine aussi de se moquer et d'essayer de rabaisser je n'écoute que des gens qui disent les Jeux de Paris, ça va être n'importe quoi, machin, etc. Et je trouve ça quand même dommage parce que ça reste quand même les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus regardé au niveau mondial, au niveau sportif, c'est le premier événement mondial. Et je trouve ça dommage. Donc je voulais avoir un petit peu votre sentiment là-dessus.
Moi, j'ai le même sentiment. Après, il ne faut pas non plus. C'est un peu comme ceux qui écoutent le fond d'un gros coquillage pensant que c'est la mer. Quoi.
N'empêche que ça ressemble.
C'est un peu cette image. On a, et peut-être davantage encore les journalistes ou les gens des médias, tendance à aller chercher justement ce que disait Laetitia.
Les minorités bruyantes.
On en a un paquet, des minorités bruyantes. Mais
qui ne représentent pas grand-chose.
Il y a quand même, je pense, une fierté à avoir des JO à Paris qui transforment une partie de la capitale, même s'il y a des contraintes. Il y a du Hidalgo bashing. Probablement, les gens de Paris sont plus en situation d'apprécier cet Hidalgo bashing que je ne le suis. Mais laissons un peu les choses dérouler. Avoir un Stade de France à 80 000 jauges, avoir quelque chose qui sera unique au monde, unique dans l'histoire des JO, 300 000, c'était parti sous 500, comprenez, parti à 500,
on 300, descend, voilà.
C'est-à-dire que ça fait quand même nettement plus que, ça doit faire 4 ou 5 stades de France, des gens qui vont avoir la banane, des gens qui viennent du monde entier pour venir. Bon, mettons un peu de pause, voilà, il y a le temps de...
Et pensons surtout à tous ces sportifs qui se préparent pour affronter les Jeux, et pensons à eux. Voilà. Voilà, moi c'est ça le message, pinçon sportif.
Ton avis, Michel, sur ça, sur les JO?
Disons qu'il y a une décision qui a été prise de longue date, ouais. qui a des organisations de longue date et qui demande du temps, c'est en marche. Donc aujourd'hui, si on se désole de ça, eh ben, il n'y a plus rien à croire. Enfin, je vous écoute, je suis noyé effectivement dans toute la discussion qu'on a eue. Mais j'ai peur aujourd'hui, j'ai même peur de descendre. On est une vie extrêmement compliquée.
On descend avec toi, t'inquiète pas Michel.
On est... Fais gaffe mais... dans les escaliers.
On t'accompagne.
J'ai un bouclier, c'est-à-dire que au bout d'un moment, la simplicité, c'est la véritable... Le véritable bouclier, c'est ça, c'est la simplicité. C'est tout, la sagesse, c'est la simplicité. Mais c'est vrai, on est de plus en plus dans un monde compliqué. Quand je vous entends là, au demain, je me dis, tiens, en termes d'information, on est déjà manipulé. Puisque l'ARCOM va décider de dire on part de là à de là et de là à de là.
Ouais.
Ce qui veut dire que la liberté d'expression me semble à un moment donné conditionnée. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça va être le cas. Mais d'une certaine manière, pourquoi pas ? À un moment donné, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit qu'il y a un cadre qui va être mis en place. Et quand il va y avoir peut-être un chef d'État qui pourrait être plus à droite ou plus à gauche, de l'extrême gauche, je pense qu'il aura peut-être son mot à dire aussi, et que là, on va être surpris. Donc c'est pour ça, tout est complexifié, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de moyens, c'est une histoire aussi que depuis des années, on fait croire tout et n'importe quoi à notre société, et on en paye les frais aujourd'hui. Alors il y a la technologie qui arrive, on a tous des téléphones, on est tous, comment dire, connecté. À un moment donné, connectés, on est tous des consommateurs de plein de choses. Mm-hmm. C'est vrai, la télévision est aussi désolante quand on regarde, d'une manière générale, certains trucs, et c'est vrai que l'histoire de Dupré, là, du monde agricole, c'est vrai, c'est du casting. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir qu'il y a du pognon là derrière.
Disons que ce sont de vrais agriculteurs ou agricultrices, mais c'est vrai qu'il y a eu un casting qui a été fait pour choisir.
Ils sont conditionnés. Voilà, ils sont conditionnés par ça.
Les meilleurs candidats.
Donc voilà, ça devient très complexe. Moi, ça m'inquiète.
Les JO, disons, il faut faire passer le message. Ça sera une superbe fête. La France, je crois que ça fait 100 ans qu'on n'a plus les JO, c'est ça, hein,
les JO d'été.
JO d'été. Donc, il faut que ce soit une fête pour les sportifs, une fête familiale. Voilà, ça va être un merveilleux spectacle. Il faut être hyper positif, parce que si on n'est pas positif sur les JO, on est positif où?
Mais moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, parce que c'est typiquement franchouillard, ça. On critique tout, ça n'est rien qui va, c'est pas bien, l'organisation, les trucs,
le Gaulois réfractaire.
Pour accéder au billet, c'est le bordel.
Thierry nous pose une question, son entrée, c'est de dire, pourquoi ça ne va pas?
Mais au final...
Qu'elle nous oriente, tu vois. Je l'ai dit qu'il nous orientait.
Jean-Michel. Au final, qu'est-ce qui va se passer? À cérémonie d'ouverture, on va être emballé, on va faire des médailles. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que on peut en parler, je ne veux pas ouvrir un nouveau débat, mais...
Ah non, mais...
ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse évoluer un petit peu le CIO et ces grandes fêtes qui coûtent peut-être, qui sont un peu démesurées, tu vois. Et ça serait bien comme message. Mais je suis persuadé que
en 2030.
Ouais, voilà. Ouais, mais j'espère. Mais voilà. Je le souhaite. Autant je suis pro JO dans les Hautes-Alpes, autant je souhaite qu'il y ait du changement et une adaptation. Mais je suis sûr que les JO de Paris, ils vont être très beaux. On va tous se retrouver au mois de juillet.
Et ce sera le mot de la fin. Merci.
Merci. Et Laetitia, elle n'a pas parlé sur les JO.
Je suis d'accord avec vous. Là, tout le monde était d'accord pour dire que ça va être une belle fête.
Voilà. Finale. Une émission d'une heure 46.
On a battu les records.
Je croyais que c'était quoi l'objectif, c'était d'être un record.
Ça fait longtemps qu'on avait pas fait.
Tu nous payes à bouffer maintenant.
Sur ces bonnes paroles, merci à vous tous. Merci Jean-Michel, Arnaud.
Merci
Laetitia. Merci Mimi. Merci Jean-Claude.
Merci Thierry.
Et merci mon petit Nono.
Mais oui, avec tout le plaisir.
On vous souhaite une belle journée. Et puis on se retrouve le mois prochain. Là, nous serons du côté de Briançon. Rendez-vous donc le mois prochain.